When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
38e section des scènes de la vie privée, tome 1, La paix du ménage. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, La paix du ménage, par Honoré de Balzac. 38e section. Pour comprendre tout l'intérêt de cette conversation, il est nécessaire de raconter un événement qui, par d'invisibles liens, allait réunir les personnages de ce petit drame, alors épars dans les salons. À 11 heures du soir environ, au moment où les danseuses reprenaient leur place, la société de l'hôtel Gondreville avait vu apparaître la plus belle femme de Paris, la reine de la mode, la seule qui manqua à cette splendide assemblée. Elle se faisait une loi de ne jamais arriver qu'à l'instant où les salons offraient ce mouvement animé qui ne permet pas aux femmes de garder longtemps la fraîcheur de leur figure ni celle de leur toilette. Ce moment rapide est comme le printemps d'un bal. Une heure après, quand le plaisir a passé, quand la fatigue arrive, tout y est flétri. Madame de Vaudremont ne commettait jamais la faute de rester à une fête pour s'y montrer avec des fleurs penchées, des boucles défrisées, des garnitures froissées, avec une figure semblable à toutes celles qui, sollicitées par le sommeil, ne le trompent pas toujours. Elle se gardait bien de laisser voir, comme ses rivales, sa beauté endormie. Elle savait soutenir habilement sa réputation de coquetterie en se retirant toujours d'un bal aussi brillante qu'elle y était entrée. Les femmes se disaient à l'oreille, avec un sentiment d'envie, qu'elle préparait et mettait autant de parures qu'elle avait de balles dans une soirée. Cette fois, Madame de Vaudremont ne devait pas être maîtresse de quitter à son gré le salon où elle arrivait alors en triomphe. Un moment arrêtée sur le seuil de la porte, elle jeta des regards observateurs, quoique rapides, sur les femmes dont les toilettes furent aussitôt étudiées, afin de se convaincre que la sienne les éclipserait toutes. La célèbre coquette s'offrit à l'admiration de l'assemblée, conduite par un des plus braves colonels de l'artillerie de la garde, un favori de l'empereur, le comte de Soulanges. L'union momentanée et fortuite de ces deux personnages eut sans doute quelque chose de mystérieux. En entendant annoncer monsieur de Soulanges et la comtesse de Vaudremont, quelques femmes placées en tapisserie se levèrent, et des hommes accourus des salons voisins se pressèrent aux portes du salon principal. Un de ces plaisants, qui ne manque jamais à ces réunions nombreuses, dit en voyant entrer la comtesse et son chevalier que les dames avaient tout autant de curiosité à contempler un homme fidèle à sa passion que les hommes à examiner une jolie femme difficile à fixer. Quoique le comte de Soulanges, jeune homme d'environ 32 ans, fut doué de ce tempérament nerveux qui engendre chez l'homme les grandes qualités, ses formes grêles et son teint pâle prévenaient peu en sa faveur. Ses yeux noirs annonçaient beaucoup de vivacité, mais dans le monde il était taciturne, et rien en lui ne révélait l'un des talents oratoires qui devait briller à la droite dans les assemblées législatives de la Restauration. La comtesse de Vaudremont, grande femme, légèrement grasse, d'une peau éblouissante de blancheur, qui portait bien sa petite tête et possédait l'immense avantage d'inspirer l'amour par la gentillesse de ses manières, était de ces créatures qui tiennent toutes les promesses que fait leur beauté. Ce couple, devenu pour quelques instants l'objet de l'attention générale, ne laissa pas longtemps la curiosité s'exercer sur son compte. Le colonel et la comtesse semblèrent parfaitement comprendre que le hasard venait de les placer dans une situation gênante. En les voyant s'avancer, Martial s'élança dans le groupe d'hommes qui occupait le poste de la cheminée pour observer, à travers les têtes qui lui formaient comme un rempart, madame de Vaudremont, avec l'attention jalouse que donne le premier feu de la passion. Une voix secrète semblait lui dire que le succès dont il s'enorgueillissait serait peut-être précaire. Mais le sourire de politesse froide par lequel la comtesse remercia monsieur de Soulanges et le geste qu'elle fit pour le congédier en s'asseyant auprès de madame de Gondreville détendirent tous les muscles que la jalousie avait contractés sur sa figure. Cependant, apercevant debout à deux pas du canapé sur lequel était madame de Vaudremont, Soulanges, qui parut ne plus comprendre le regard par lequel la jeune coquette lui avait dit qu'ils jouaient l'un et l'autre un rôle ridicule, le Provençal, à la tête volcanique, fronça de nouveau les noirs sourcils qui ombrageaient ses yeux bleus, caressa par maintien les boucles de ses cheveux bruns, et sans trahir l'émotion qui lui faisait palpiter le cœur, il surveilla la contenance de la comtesse et celle de monsieur de Soulanges, tout en badinant avec ses voisins. Il saisit alors la main du colonel qui venait renouveler connaissance avec lui, mais il l'écouta sans l'entendre tant il était préoccupé. Soulanges jetait des regards tranquilles sur la quadruple rangée de femmes qui encadrait l'immense salon du sénateur, en admirant cette bordure de diamants, de rubis, de gerbes d'or et de têtes parées, dont l'éclat faisait presque pâlir le feu des bougies, le cristal des lustres et les dorures. Le calme insouciant de son rival fit perdre contenance au maître des requêtes. Incapable de maîtriser la secrète impatience qui le transportait, Martial s'avança vers madame de Vaudremont pour la saluer. Quand le Provençal apparut, Soulanges lui lança un regard terne et détourna la tête avec impertinence. Un silence grave régna dans le salon où la curiosité fut à son comble. Toutes les têtes tendues offrirent les expressions les plus bizarres. Chacun craignit et attendit un de ces éclats que les gens bien élevés se gardent toujours de faire. Tout à coup, la pâle figure du comte devint aussi rouge que l'écarlate de ses parements, et ses regards se baissèrent aussitôt vers le parquet, pour ne pas laisser deviner le sujet de son trouble. En voyant l'inconnu, humblement placé au pied du candélabre, il passa d'un air triste devant le maître des requêtes et se réfugia dans un des salons de jeu. Martial et l'assemblée crurent que Soulanges lui cédait publiquement la place, par la crainte du ridicule qui s'attache toujours aux amants détrônés. Le maître des requêtes releva fièrement la tête, regarda l'inconnu, puis quand il s'assit avec aisance auprès de madame de Vaudremont, il l'écouta d'un air si distrait qu'il n'entendit pas ces paroles prononcées sous l'éventail par la coquette. « Martial, vous me ferez plaisir de ne pas porter ce soir la bague que vous m'avez arrachée. J'ai mes raisons, et vous les expliquerez, dans un moment, quand nous nous retirerons. Vous me donnerez le bras pour aller chez la princesse de Wagram. » « Pourquoi donc avez-vous pris la main du colonel ?» demanda le baron. « Je l'ai rencontré sous le péristyle, répondit-elle. Mais laissez-moi, chacun nous observe. » Martial rejoignit le colonel de cuirassiers. La petite dame bleue devint alors le lien commun de l'inquiétude qui agitait à la fois et si diversement le cuirassier, Soulanges, Martial et la comtesse de Vaudremont. Quand les deux amis se séparèrent après s'être porté le défi qui termina leur conversation, le maître des requêtes s'élança vers madame de Vaudremont et sut la placer au milieu du plus brillant quadrille. À la faveur de cette espèce d'enivrement dans lequel une femme est toujours plongée par la danse et par le mouvement d'un bal où les hommes se montrent avec le charlatanisme de la toilette qui ne leur donne pas moins d'attrait qu'elle en prête aux femmes, Martial crut pouvoir s'abandonner impunément au charme qui l'attirait vers l'inconnu. S'il réussit à dérober les premiers regards qu'il jeta sur la dame bleue à l'inquiète activité des yeux de la comtesse, il fut bientôt surpris en flagrant délit. Et s'il fit excuser une première préoccupation, il ne justifia pas l'impertinent silence par lequel il répondit plus tard à la plus séduisante des interrogations qu'une femme puisse adresser à un homme. « M'aimez-vous ce soir ?» Plus il était rêveur, plus la comtesse se montrait pressante et taquine. Pendant que Martial dansait, le colonel alla de groupe en groupe, y quêtant des renseignements sur la jeune inconnue. Après avoir épuisé la complaisance de toutes les personnes, et même celle des indifférents, il se déterminait à profiter d'un moment où la comtesse de Gondreville paraissait libre pour lui demander à elle-même le nom de cette dame mystérieuse. Quand il aperçut un léger vide entre la colonne brisée qui supportait le candélabre et les deux divans qui venaient y aboutir. Le colonel profita du moment où la danse laissait vacante une grande partie des chaises qui formaient plusieurs rangs de fortifications défendues par des mères ou par des femmes d'un certain âge, et entreprit de traverser cette palissade couverte de châles et de mouchoirs. Il se mit à complimenter les douairières, puis, de femme en femme, de politesse en politesse, il finit par atteindre, auprès de l'inconnu, la place vide. Au risque d'accrocher les griffons et les chimères de l'immense flambeau, il se maintint là sous le feu et la cire des bougies, au grand mécontentement de Martial. Trop adroit pour interpeller brusquement la petite dame bleue qu'il avait à sa droite, le colonel commença par dire à une grande dame assez laide qui se trouvait assise à sa gauche « Voilà, madame, un bien beau bal. Quel luxe, quel mouvement. D'honneur, les femmes y sont toutes jolies. Si vous ne dansez pas, c'est sans doute mauvaise volonté. » Cette insipide conversation, engagée par le colonel, avait pour but de faire parler sa voisine de droite qui, silencieuse et préoccupée, ne lui accordait pas la plus légère attention. L'officier tenait en réserve une foule de phrases qui devaient se terminer par un « Et vous, madame ?» sur lequel il comptait beaucoup. Mais il fut étrangement surpris en apercevant quelques larmes dans les yeux de l'inconnue, que madame de Vaudremont paraissait captivée entièrement. « Madame est sans doute mariée ?» demanda enfin le colonel Montcornet d'une voix mal assurée. « Oui, monsieur, » répondit l'inconnu. « Monsieur, votre mari est sans doute ici ?»« Oui, monsieur. » »« Et pourquoi donc, madame, restez-vous à cette place ? Est-ce par coquetterie ?» L'affligé sourit tristement. « Accordez-moi l'honneur, madame, d'être votre cavalier pour la contredanse suivante, et je ne vous ramènerai certes pas ici. Je vois près de la cheminée une gondole vide. Venez-y. Quand tant de gens s'apprêtent à trôner, et que la folie du jour est la royauté, je ne conçois pas que vous refusiez d'accepter le titre de reine du bal, qui semble promis à votre beauté. Monsieur, je ne danserai pas. » L'intonation brève des réponses de cette femme était si désespérante que le colonel se vit forcé d'abandonner la place. Martial, qui devina la dernière demande du colonel et le refus qu'il essuyait, se mit à sourire et se caressa le menton en faisant briller la bague qu'il avait au doigt. « De quoi riez-vous ? » lui dit la comtesse de Vaudremont. « De l'insuccès de ce pauvre colonel qui vient de faire un pas de clerc. « Je vous avais prié d'ôter votre bague, » reprit la comtesse en l'interrompant. « Je ne l'ai pas entendu. Si vous n'entendez rien ce soir, vous savez voir tout, monsieur le baron, » répondit madame de Vaudremont d'un air piqué. « Voilà un jeune homme qui montre un bien beau brillant, » dit alors l'inconnu au colonel. « Magnifique, » répondit-il. « Ce jeune homme est le baron Martial de La Roche-Hugon, un de mes plus intimes amis. » « Je vous remercie de m'avoir dit son nom, » reprit-elle. « Il paraît fort aimable. »« Oui, mais il est un peu léger. »« On pourrait croire qu'il est bien avec la comtesse de Vaudremont, » demanda la jeune dame en interrogeant des yeux le colonel. « Du dernier mieux. » L'inconnu pâlit. « Allons, » pensa le militaire, « elle aime ce diable de Martial. »« Je croyais madame de Vaudremont engagée depuis longtemps avec monsieur de Soulanges. » reprit la jeune femme un peu remise de la souffrance intérieure qui venait d'altérer l'éclat de son visage. « Depuis 8 jours, la comtesse le trompe, » répondit le colonel. « Mais vous devez avoir vu ce pauvre Soulanges à son entrée. Il essaye encore de ne pas croire à son malheur. » « Je l'ai vu, » dit la dame bleue. Puis elle ajouta un « Monsieur, je vous remercie, » dont l'intonation équivalait à un congé. En ce moment, la contredanse étant près de finir, Le colonel, désappointé, n'eut que le temps de se retirer en se disant par manière de consolation « Elle est mariée ». « Eh bien, courageux cuirassier !» s'écria le baron en entraînant le colonel dans l'embrasure d'une croisée pour y respirer l'air pur des jardins. « Où en êtes-vous ?»« Elle est mariée, mon cher. Qu'est-ce que cela fait ?»« Ah, diantre ! J'ai des mœurs, » répondit le colonel. « Je ne veux plus m'adresser qu'à des femmes que je puisse épouser. D'ailleurs, Martial, elle m'a formellement manifesté la volonté de ne pas danser. »« Colonel, parions votre cheval gris pommelé contre 100 Napoléons qu'elle dansera ce soir avec moi. »« Je veux bien, » dit le colonel en frappant dans la main du fat. « En attendant, je vais voir Soulanges. Il connaît peut-être cette dame qui m'a semblé s'intéresser à lui. » « Mon brave, vous avez perdu, » dit Martial en riant. « Mes yeux se sont rencontrés avec les siens, et je m'y connais. Cher colonel, vous ne m'en voudrez pas de danser avec elle après le refus que vous avez essuyé. »« Non, non, rira bien qui rira le dernier. Au reste, Martial, je suis beau joueur et bon ennemi. Je te préviens qu'elle aime les diamants. » À ce propos, les deux amis se séparèrent. Le général Montcornet se dirigea vers le salon de jeu, où il aperçut le comte de Soulanges assis à une table de bouillotte. Quoiqu'il n'existât entre les deux colonels que cette amitié banale, établie par les périls de la guerre et les devoirs du service, le colonel des cuirassiers fut douloureusement affecté de voir le colonel d'artillerie, qu'il connaissait pour un homme sage, engagé dans une partie où il pouvait se ruiner. Les monceaux d'or et de billets étalés sur le fatal tapis attestaient la fureur du jeu. Un cercle d'hommes silencieux entourait les joueurs attablés. Quelques mots retentissaient bien parfois comme « passe »,« je »,« tiens »,« 1000 louis »,« tenue ». Mais il semblait en regardant ces cinq personnages immobiles qu'ils ne se parlassent que des yeux. Quand le colonel, effrayé de la pâleur de Soulanges, s'approcha de lui, le comte gagnait. L'ambassadeur autrichien, un banquier célèbre, se levait complètement décavé de sommes considérables. Soulanges devint encore plus sombre en recueillant une masse d'or et de billets. Il ne compta même pas. Un amer dédain crispa ses lèvres. Il semblait menacer la fortune au lieu de la remercier de ses faveurs. « Courage !» lui dit le colonel. « Courage, Soulanges !» Puis, croyant lui rendre un vrai service en l'arrachant au jeu, « Venez, ajouta-t-il, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre, mais à une condition. »« Laquelle ?» demanda Soulanges. « Celle de me répondre à ce que je vous demanderai. » Le comte de Soulanges se leva brusquement, mit son gain d'un air fort insouciant dans un mouchoir qu'il avait tourmenté d'une manière convulsive, et son visage était si farouche qu'aucun joueur ne s'avisa de trouver mauvais qu'il fit Charlemagne. Les figures parurent même se dilater quand cette tête maussade et chagrine ne fut plus dans le cercle lumineux que décrit au-dessus d'une table un flambeau de bouillotte. « Ces diables de militaires s'entendent comme des larrons en foire, » dit à voix basse un diplomate de la galerie en prenant la place du colonel. Une seule figure blême et fatiguée se tourna vers le rentrant et lui dit en lui lançant un regard qui brilla, mais s'éteignit comme le feu d'un diamant, « Qui dit militaire ne dit pas civil, monsieur le ministre. » « Mon cher, » dit Montcornet à Soulanges en l'attirant dans un coin, « ce matin l'empereur a parlé de vous avec éloge, et votre promotion au maréchalat n'est pas douteuse. » « Le patron n'aime pas l'artillerie. » « Oui. » « Mais il adore la noblesse et vous êtes ainsi devant. » »« Le patron, » reprit Montcornet, « a dit que ceux qui s'étaient mariés à Paris pendant la campagne ne devaient pas être considérés comme en disgrâce. »« Eh bien ?» Le comte de Soulanges semblait ne rien comprendre à ce discours. « Ah ça, j'espère maintenant, » reprit le colonel, « que vous me direz si vous connaissez une charmante petite femme assise au pied d'un candélabre. » À ces mots, les yeux du comte s'animèrent. Il saisit avec une violence inouïe la main du colonel. « Mon cher général, lui dit-il d'une voix sensiblement altérée, si un autre que vous me faisait cette question, je lui fendrais le crâne avec cette masse d'or. Laissez-moi, je vous en supplie. J'ai plus envie ce soir de me brûler la cervelle que... Je hais tout ce que je vois. Aussi vais-je partir. Cette joie, cette musique, ces visages stupides qui rient m'assassinent. Mon pauvre ami, reprit d'une voix douce Montcornet en frappant amicalement dans la main de Soulanges, vous êtes passionné. Que diriez-vous donc si je vous apprenais que Martial songe si peu à madame de Vaudremont qui s'est épris de cette petite dame ? S'il lui parle, s'écria Soulanges en bégayant de fureur, je le rendrai aussi plat que son portefeuille, quand même le fat serait dans le giron de l'empereur. Et le comte tomba comme anéanti sur la causeuse vers laquelle le colonel l'avait mené. Ce dernier se retira lentement. Il s'aperçut que Soulanges était en proie à une colère trop violente pour que des plaisanteries ou les soins d'une amitié superficielle pussent le calmer. Quand le colonel Montcornet rentra dans le grand salon de danse, madame de Vaudremont fut la première personne qui s'offrit à ses regards, et il remarqua sur sa figure, ordinairement si calme, quelques traces d'une agitation mal déguisée. Une chaise était vacante auprès d'elle. Le colonel vint s'y asseoir. « Je gage que vous êtes tourmenté, » dit-il. « Bagatelle, général, je voudrais être parti d'ici. J'ai promis d'être au bal de la grande-duchesse de Berg, et il faut que j'aille auparavant chez la princesse de Wagram. Monsieur de la Roche-Hugon, qui le sait, s'amuse à compter fleurettes à des douairières. Ce n'est pas là tout à fait le sujet de votre inquiétude, et je gage sans louis que vous resterez ici ce soir. Impertinent. J'ai donc dit vrai. Eh bien, que pensais-je ? Reprit la comtesse en donnant un coup d'éventail sur les doigts du colonel. Je suis capable de vous récompenser, si vous le devinez. Je n'accepterai pas le défi, j'ai trop d'avantages. Présomptueux. Vous craignez de voir Martial au pied... De qui ? Demanda la comtesse en affectant la surprise. De ce candélabre, répondit le colonel en montrant la belle inconnue et regardant la comtesse avec une attention gênante. « Vous avez deviné, » répondit la coquette en se cachant la figure sous son éventail, avec lequel elle se mit à jouer. La vieille madame de Grandlieu, qui, vous le savez, est maligne comme un vieux singe, reprit-elle après un moment de silence, vient de me dire que monsieur de la Roche-Hugon courait quelque danger à courtiser cet inconnu, qui se trouve ce soir ici comme un trouble fait. J'aimerais mieux voir la mort que cette figure si cruellement belle et pâle, autant qu'une vision. » C'est mon mauvais génie. Madame de Grandlieu, continua-t-elle, après avoir laissé échapper un signe de dépit, qui ne va au bal que pour tout voir en faisant semblant de dormir, m'a cruellement inquiétée. Martial me paiera cher le tour qu'il me joue. Cependant, engagez-le, général, puisque c'est votre ami, à ne pas me faire de la peine. Je viens de voir un homme qui ne se propose rien moins que de lui brûler la cervelle s'il s'adresse à cette petite dame. Cet homme-là, madame, et de parole. Mais je connais Martial, ses périls sont autant d'encouragements. Il y a plus, nous avons parié. Ici le colonel baissa la voix. Serait-ce vrai ? Demanda la comtesse. Sur mon honneur. Merci, général, répondit madame de Vaudremont en lui lançant un regard plein de coquetterie. Me ferez-vous l'honneur de danser avec moi ? Oui, mais la seconde contredanse. Pendant celle-ci, je veux savoir ce que peut devenir cette intrigue et savoir qui est cette petite dame bleue. Elle a l'air spirituelle. Le colonel, voyant que madame de Vaudremont voulait être seule, s'éloigna, satisfait d'avoir si bien commencé son attaque. Il se rencontre, dans les fêtes, quelques dames qui, semblables à madame de Grandlieu, sont là comme de vieux marins occupés sur le bord de la mer, à contempler les jeunes matelots aux prises avec les tempêtes. En ce moment, madame de Grandlieu, qui paraissait s'intéresser au personnage de cette scène, put facilement deviner la lutte à laquelle la comtesse était en proie. La jeune coquette avait beau s'éventer gracieusement, sourire à des jeunes gens qui la saluaient et mettre en usage les ruses dont se sert une femme pour cacher son émotion, la douairière, l'une des plus perspicaces et malicieuses duchesses que le XVIIIe siècle avait léguée au XIXe, savait lire dans son cœur et dans sa pensée. La vieille dame semblait reconnaître les mouvements imperceptibles qui décèlent les affections de l'âme. le pli le plus léger qui venait rider ce front si blanc et si pur, le tressaillement le plus insensible des pommettes, le jeu des sourcils, l'inflexion la moins visible des lèvres, dont le corail mouvant ne pouvait lui rien cacher, étaient pour la duchesse comme les caractères d'un livre. Du fond de sa bergère, que sa robe remplissait entièrement, la coquette émérite, tout en causant avec un diplomate qui la recherchait afin de recueillir les anecdotes qu'elle contait si bien, s'admirait elle-même dans la jeune coquette. Elle la prit en goût en lui voyant si bien déguiser son chagrin et les déchirements de son cœur. Madame de Vaudremont ressentait en effet autant de douleur qu'elle feignait de gaieté. Elle avait cru rencontrer dans Martial un homme de talent sur l'appui duquel elle comptait pour embellir sa vie de tous les enchantements du pouvoir. En ce moment, elle reconnaissait une erreur aussi cruelle pour sa réputation que pour son amour-propre. Chez elle, comme chez les autres femmes de cette époque, la soudaineté des passions augmentait leur vivacité. Les âmes, qui vivent beaucoup et vite, ne souffrent pas moins que celles qui se consument dans une seule affection. La prédilection de la comtesse pour Martial était née de la veille, il est vrai. Mais le plus inepte des chirurgiens sait que la souffrance causée par l'amputation d'un membre vivant est plus douloureuse que ne l'est celle d'un membre malade. Il y avait de l'avenir dans le goût de Madame de Vaudremont pour Martial, tandis que sa passion précédente était sans espérance, et empoisonnée par les remords de Soulanges. La vieille duchesse, qui épiait le moment opportun de parler à la comtesse, s'empressa de congédier son ambassadeur, car en présence de maîtresse et d'amant brouillé, tout intérêt pâlit, même chez une vieille femme. Pour engager la lutte, Madame de Grandlieu lança sur Madame de Vaudremont un regard sardonique qui fit craindre à la jeune coquette de voir son sort entre les mains de la douairière. Il est de ces regards de femme à femme qui sont comme des flambeaux amenés dans les dénouements de tragédie. Il faut avoir connu cette duchesse pour apprécier la terreur que le jeu de sa physionomie inspirait à la comtesse. Madame de Grandlieu était grande, ses traits faisaient dire d'elle « Voilà une femme qui a dû être jolie ». Elle se couvrait les joues de tant de rouge que ses rides ne paraissaient presque plus. Mais loin de recevoir un éclat factice de ce carmin foncé, ses yeux n'en étaient que plus ternes. Elle portait une grande quantité de diamants et s'habillait avec assez de goût pour ne pas prêter au ridicule. Son nez pointu annonçait l'épigramme. Un râtelier bien mis conservait à sa bouche une grimace d'ironie qui rappelait celle de Voltaire. Cependant, l'exquise politesse de ses manières adoucissait si bien la tournure malicieuse de ses idées qu'on ne pouvait l'accuser de méchanceté. Les yeux gris de la vieille dame s'animèrent, un regard triomphal accompagné d'un sourire qui disait « Je vous l'avais bien promis » traversa le salon et répandit l'incarnat de l'espérance sur les joues pâles de la jeune femme qui gémissait au pied du candélabre. Cette alliance entre Madame de Grandlieu et l'inconnue ne pouvait échapper à l'œil exercé de la comtesse de Vaudremont, qui entrevit un mystère et le voulut pénétrer. En ce moment, le baron de La Roche-Hugon, après avoir achevé de questionner toutes les douairières sans pouvoir apprendre le nom de la dame bleue, s'adressait en désespoir de cause à la comtesse de Gondreville, et n'en recevait que cette réponse peu satisfaisante. « C'est une dame que l'ancienne duchesse de Grandlieu m'a présentée. » En se retournant par hasard vers la bergère occupée par la vieille dame, le maître des requêtes en surprit le regard d'intelligence lancé sur l'inconnue, et quoiqu'il fût assez mal avec elle depuis quelque temps, il résolut de l'aborder. En voyant le sémillant baron rôdant autour de sa bergère, l'ancienne duchesse sourit avec une malignité sardonique, et regarda Madame de Vaudremont d'un air qui fit rire le colonel Montcornet. Si la vieille bohémienne prend un air d'amitié, pensa le baron, elle va sans doute me jouer quelque méchant tour. Madame, lui dit-il, vous vous êtes chargée, me dit-on, de veiller sur un bien précieux trésor. Me prenez-vous pour un dragon? Demanda la vieille dame. Mais de qui parlez-vous? Ajouta-t-elle avec une douceur de voix qui rendit l'espérance à Martial. « De cette petite dame inconnue que la jalousie de toutes ces coquettes a confinée là-bas. Vous connaissez sans doute sa famille.
Oui, dit la duchesse, mais que voulez-vous faire d'une héritière de province, mariée depuis quelque temps, une fille bien née que vous ne connaissez pas, vous autres? Elle ne va nulle part.
Pourquoi ne danse-t-elle pas? Elle est si belle.
Voulez-vous que nous fassions un traité de paix? Si vous daignez m'instruire de tout ce que j'ai intérêt à savoir, je vous jure que votre demande en restitution des bois de Marigny par le domaine extraordinaire sera chaudement appuyée auprès de l'empereur.
Monsieur, répondit la vieille dame avec une gravité trompeuse, amenez-moi la comtesse de Vaudremont. Je vous promets de lui révéler le mystère qui rend notre inconnue si intéressante. Voyez, tous les hommes du bal sont arrivés au même degré de curiosité que vous. Les yeux se portent involontairement vers ce candélabre où ma protégée s'est modestement placée. Elle recueille tous les hommages qu'on a voulu lui ravir. Bienheureux celui qu'elle prendra pour danseur. Là, elle s'interrompit en fixant la comtesse de Vaudremont par un de ces regards qui disent si bien « Nous parlons de vous ». Puis elle ajouta « Je pense que vous aimerez mieux apprendre le nom de l'inconnu de la bouche de votre belle comtesse que de la mienne ». L'attitude de la duchesse était si provocante que madame de Vaudremont se leva, vint auprès d'elle, s'assit sur la chaise que lui offrit Martial, et, sans faire attention à lui, « Je devine, madame, lui dit-elle en riant, que vous parlez de moi, mais j'avoue mon infériorité. Je ne sais si c'est en bien ou en mal. » Madame de Grandlieu serra de sa vieille main sèche et ridée la jolie main de la jeune femme, et d'un ton de compassion, elle lui répondit à voix basse, « Pauvre petite !» Les deux femmes se regardèrent. Madame de Vaudremont comprit que Martial était de trop, et le congédia en lui disant d'un air impérieux, « Laissez-nous !» Le maître des requêtes, peu satisfait de voir la comtesse sous le charme de la dangereuse Sibylle, qui l'avait attirée près d'elle, lui lança un de ces regards d'homme puissant sur un cœur aveugle, mais qui paraissent ridicules à une femme quand elle commence à juger celui de qui elle s'était prise.
« Auriez-vous la prétention de singer l'empereur ? » dit madame de Vaudremont, en mettant sa tête de trois quarts pour contempler le maître des requêtes d'un air ironique. Martial avait trop l'usage du monde, trop de finesse et de calcul pour s'exposer à rompre avec une femme si bien en cour et que l'empereur voulait marier. Il compta d'ailleurs sur la jalousie qu'il se proposait d'éveiller en elle, comme sur le meilleur moyen de deviner le secret de sa froideur, et s'éloigna d'autant plus volontiers qu'en cet instant une nouvelle contredanse mettait tout le monde en mouvement. Le baron eut l'air de céder la place aux quadrilles. Il alla s'appuyer sur le marbre d'une console, se croisa les bras sur la poitrine, et resta tout occupé de l'entretien des deux dames. De temps en temps, il suivait les regards que toutes deux jetèrent à plusieurs reprises sur l'inconnu. Comparant alors la comtesse à cette beauté nouvelle que le mystère rendait si attrayante, le baron fut en proie aux odieux calculs habituels aux hommes à bonne fortune. Il flottait entre une fortune à prendre et son caprice à contenter. Le reflet des lumières faisait si bien ressortir sa figure soucieuse et sombre sur les draperies de moire blanche, froissées par ses cheveux noirs, qu'on aurait pu le comparer à quelque mauvais génie. De loin, plus d'un observateur dut sans doute se dire « Voilà encore un pauvre diable qui paraît s'amuser beaucoup !» L'épaule droite légèrement appuyée sur le chambranle de la porte qui se trouvait entre le salon de danse et la salle de jeu, le colonel pouvait rire incognito sous ses amples moustaches. Il jouissait du plaisir de contempler le tumulte du bal. Il voyait cent jolies têtes tournoyant au gré des caprices de la danse. Il lisait sur quelques figures, comme sur celle de la comtesse et de son ami Martial, les secrets de leur agitation. Puis, en détournant la tête, il se demandait quel rapport existait entre l'air sombre du comte de Soulanges, toujours assis sur la causeuse, et la physionomie plaintive de la dame, inconnue, sur le visage de laquelle apparaissaient tour à tour les joies de l'espérance et les angoisses d'une terreur involontaire. Montcornet était là comme le roi de la fête. Il trouvait dans ce tableau mouvant une vue complète du monde, et il en riait en recueillant les sourires intéressés de 100 femmes brillantes et parées. Un colonel de la garde impériale, poste qui comportait le grade de général de brigade, était certes un des plus beaux partis de l'armée.
Il était minuit environ. Les conversations, le jeu, la danse, la coquetterie, les intérêts, les malices et les projets, tout arrivait à ce degré de chaleur qui arrache à un jeune homme cette exclamation. Le beau bal. Fin de la 38e section. Section. Des scènes de la vie privée, tome 1. La paix du ménage. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1. La paix du ménage, par Honoré de Balzac. 39e section. Mon bon petit ange, disait Madame de Grandlieu à la comtesse, vous êtes à un âge où j'ai fait bien des fautes. En vous voyant souffrir tout à l'heure 1000 morts, j'ai eu la pensée de vous donner quelques avis charitables. Commettre des fautes à 22 ans, n'est-ce pas gâter son avenir? N'est-ce pas déchirer la robe qu'on doit mettre? Ma chère, nous n'apprenons que bien tard à nous en servir sans la chiffonner. Continuez, mon cœur, à vous procurer des ennemis adroits et des amis sans esprit de conduite. Vous verrez quelle jolie petite vie vous mènerez un jour. Ah, madame, une femme a bien de la peine à être heureuse, n'est-ce pas? S'écria naïvement la comtesse. Ma petite, il faut savoir choisir à votre âge entre les plaisirs et le bonheur. Vous voulez épouser Martial, qui n'est ni assez sot pour faire un bon mari, ni assez passionné pour être un amant. Il a des dettes, ma chère. Il est homme à dévorer votre fortune. Mais ce ne serait rien s'il vous donnait le bonheur. Ne voyez-vous combien il est vieux? Cet homme doit avoir été souvent malade. Il jouit de son reste. Dans 3 ans, ce sera un homme fini. L'ambitieux commencera. Peut-être réussira-t-il. Je ne le crois pas. Qu'est-il? Un intrigant qui peut posséder à merveille l'esprit des affaires et babiller agréablement? Mais il est trop avantageux pour avoir un vrai mérite. Il n'ira pas loin. D'ailleurs, regardez-le. Ne lit-on pas sur son front que, dans ce moment-ci, ce n'est pas une jeune et jolie femme qu'il voit en vous, mais les 2 millions que vous possédez? Il ne vous aime pas, ma chère. Il vous calcule comme s'il s'agissait d'une affaire. Si vous voulez vous marier, prenez un homme plus âgé, qui ait de la considération et qui soit à la moitié de son chemin. Une veuve ne doit pas faire de son mariage une affaire d'amourette. Une souris s'attrape-t-elle 2 fois au même piège? Maintenant, un nouveau contrat doit être une spéculation pour vous, et il faut, en vous remariant, avoir au moins l'espoir de vous entendre nommer un jour Madame la Maréchale. En ce moment, les yeux des 2 femmes se fixèrent naturellement sur la belle figure du colonel Montcornet. Si vous voulez jouer le rôle difficile d'une coquette et ne pas vous marier, reprit la duchesse avec bonhomie, ah, ma pauvre petite, vous saurez mieux que tout autre amonceler les nuages d'une tempête et la dissiper. Mais je vous en conjure, ne vous faites jamais un plaisir de troubler la paix des ménages, de détruire l'union des familles et le bonheur des femmes qui sont heureuses. Je l'ai joué, ma chère, ce rôle dangereux. Eh, mon Dieu, pour un triomphe d'amour-propre, on assassine souvent de pauvres créatures vertueuses. Car il existe vraiment, ma chère, des femmes vertueuses, et l'on se crée des haines mortelles. Un peu trop tard, j'ai appris que, suivant l'expression du duc d'Albe, un saumon vaut mieux que 1000 grenouilles. Certes, un véritable amour donne 1000 fois plus de jouissance que les passions éphémères qu'on excite. Eh bien, je suis venu ici pour vous prêcher. Oui, vous êtes la cause de mon apparition dans ce salon qui pue le peuple. Ne viens-je pas d'y voir des acteurs? Autrefois, ma chère, on les recevait dans son boudoir. Mais au salon, fi donc! Pourquoi me regardez-vous d'un air si étonné? Écoutez-moi. Si vous voulez vous jouer des hommes, reprit la vieille dame, ne bouleversez le cœur que de ceux dont la vie n'est pas arrêtée, de ceux qui n'ont pas de devoir à remplir. Les autres ne nous pardonnent pas les désordres qui les ont rendus heureux. Profitez de cette maxime due à ma vieille expérience. Ce pauvre Soulanges, par exemple, auquel vous avez fait tourner la tête et que depuis 15 mois vous avez enivré, Dieu sait comme, eh bien, savez-vous sur quoi porter vos coups? Sur sa vie tout entière. Il est marié depuis 6 mois. Il est adoré d'une charmante créature qu'il aime et qu'il trompe. Elle vit dans les larmes et dans le silence le plus amer. Soulanges a eu des moments de remords plus cruels que ses plaisirs n'étaient doux. Et vous, petite rusée, vous l'avez trahi. Eh bien, venez contempler votre ouvrage. » La vieille duchesse prit la main de madame de Vaudremont, et elles se levèrent. « Tenez, lui dit madame de Grandlieu en lui montrant des yeux, l'inconnue pâle et tremblante sous les feux du lustre. « Voilà ma petite nièce, la comtesse de Soulanges. Elle a enfin cédé aujourd'hui à mes instances. Elle a consenti à quitter la chambre de douleur où la vue de son enfant ne lui apportait que de bien faibles consolations. La voyez-vous? Elle vous paraît charmante. Eh bien, chère belle, jugez de ce qu'elle devait être quand le bonheur et l'amour répandaient leur éclat sur cette figure maintenant flétrie. » La comtesse détourna silencieusement la tête et parut en proie à de graves réflexions. La duchesse l'amena jusqu'à la porte de la salle de jeu. Puis, après y avoir jeté les yeux comme si elle eût voulu y chercher quelqu'un, « Et voilà Soulanges, » dit-elle à la jeune coquette d'un son de voix profond. La comtesse frissonna quand elle aperçut dans le coin le moins éclairé du salon la figure pâle et contractée de Soulanges, appuyée sur la causeuse. L'affaissement de ses membres et l'immobilité de son front accusaient toute sa douleur. Les joueurs allaient et venaient devant lui, sans y faire plus d'attention que s'il eût été mort. Le tableau que présentaient la femme en larmes et le mari morne et sombre, séparés l'un de l'autre au milieu de cette fête, comme les deux moitiés d'un arbre frappé par la foudre, eut peut-être quelque chose de prophétique pour la comtesse. Elle craignit d'y voir une image des vengeances que lui gardait l'avenir. Son cœur n'était pas encore assez flétri pour que la sensibilité et l'indulgence en fussent entièrement bannies. Elle pressa la main de la duchesse en la remerciant par un de ces sourires qui ont une certaine grâce enfantine. « Mon cher enfant, lui dit la vieille dame à l'oreille, songez désormais que nous savons aussi bien repousser les hommages des hommes que nous les attirer. Elle est à vous si vous n'êtes pas un niais. » Ces dernières paroles furent soufflées par madame de Grandlieu à l'oreille du colonel Montcornet, pendant que la belle comtesse se livrait à la compassion que lui inspirait l'aspect de Soulanges, car elle l'aimait encore assez sincèrement pour vouloir le rendre bonheur, et se promettait intérieurement d'employer l'irrésistible pouvoir qu'exerçaient encore ses séductions sur lui pour le renvoyer à sa femme. « Oh, comme je vais le prêcher, » dit-elle à madame de Grandlieu. « N'en faites rien, ma chère, » s'écria la duchesse en regagnant sa bergère. « Choisissez-vous un bon mari et fermez votre porte à mon neveu. Ne lui offrez même pas votre amitié. Croyez-moi, mon enfant, une femme ne reçoit pas d'une autre femme le cœur de son mari. Elle est 100 fois plus heureuse de croire qu'elle l'a reconquis elle-même. En amenant ici ma nièce, je crois lui avoir donné un excellent moyen de regagner l'affection de son mari. Je ne vous demande pour toute coopération que d'agacer le général. » Et, quand elle lui montra l'ami du maître des requêtes, la comtesse sourit. « Eh bien, madame, savez-vous enfin le nom de cet inconnu ?» demanda le baron d'un air piqué à la comtesse quand elle se trouva seule. « Oui, » dit madame de Vaudremont, regardant le maître des requêtes. Sa figure exprimait autant de finesse que de gaieté. Le sourire qui répandait la vie sur ses lèvres et sur ses joues, la lumière humide de ses yeux était semblable à ces feux follets qui abusent le voyageur. Martial, qui se crut toujours aimé, prit alors cette attitude coquette dans laquelle un homme se balance si complaisamment auprès de celle qu'il aime, et dit avec fatuité « Et ne m'en voudrez-vous pas si je parais attacher beaucoup de prix à savoir ce nom ?»« Et ne m'en voudrez-vous pas ?» répliqua madame de Vaudremont, « si, par un reste d'amour, je ne vous le dis pas, et si je vous défends de faire la moindre avance à cette jeune dame, vous risqueriez votre vie, peut-être. Madame, perdre vos bonnes grâces, n'est-ce pas perdre plus que la vie ?»« Martial, dit sévèrement la comtesse, c'est madame de Soulanges. Son mari vous brûlerait la cervelle si vous en avez toutefois. » « Ah ah !» répliqua le fat en riant. « Le colonel laissera vivre en paix celui qui lui a enlevé votre cœur et se battrait pour sa femme ? Quel renversement de principe ! Je vous en prie, permettez-moi de danser avec cette petite dame. Vous pourrez ainsi avoir la preuve du peu d'amour que renfermait pour vous ce cœur de neige. Car si le colonel trouve mauvais que je fasse danser sa femme, après avoir souffert que je vous... Mais elle aime son mari. Obstacle de plus que j'aurai le plaisir de vaincre. Mais elle est mariée. Plaisante objection. Ah, dit la comtesse avec un sourire amer, vous nous punissez également de nos fautes et de nos repentirs. Ne vous fâchez pas, dit vivement Martial. Oh, je vous en supplie, pardonnez-moi. Tenez, je ne pense plus à madame de Soulanges. Vous mériteriez bien que je vous envoyasse auprès d'elle. J'y vais, dit le baron en riant, et je reviendrai plus épris de vous que jamais. Vous verrez que la plus jolie femme du monde ne peut s'emparer d'un cœur qui vous appartient. C'est-à-dire que vous voulez gagner le cheval du colonel. Ah, le traître, répondit-il en riant et menaçant du doigt son ami qui souriait. Le colonel arriva, le baron lui céda la place auprès de la comtesse à laquelle il dit d'un air sardonique « Madame, voici un homme qui s'est vanté de pouvoir gagner vos bonnes grâces dans une soirée. » Il s'applaudit en s'éloignant d'avoir révolté l'amour-propre de la comtesse et desservi Montcornet. Mais, malgré sa finesse habituelle, il n'avait pas deviné l'ironie dont étaient empreints les propos de madame de Vaudremont, et ne s'aperçut point qu'elle avait fait autant de pas vers son ami que son ami vers elle, quoiqu'à l'insu l'un de l'autre. Au moment où le maître des requêtes s'approchait en papillonnant du candélabre sous lequel la comtesse de Soulanges, pâle et craintive, semblait ne vivre que des yeux, son mari arriva, près de la porte du salon en montrant des yeux étincelants de passion. La vieille duchesse, attentive à tout, s'élança vers son neveu, lui demanda son bras et sa voiture pour sortir, en prétextant un ennui mortel et se flattant de prévenir ainsi un éclat fâcheux. Elle fit, avant de partir, un singulier signe d'intelligence à sa nièce, en lui désignant l'entreprenant cavalier qui se préparait à lui parler, et ce signe semblait lui dire « Le voici, venge-toi ». Madame de Vaudremont surprit le regard de la tante et de la nièce. Une lueur soudaine illumina son âme. Elle craignit d'être la dupe de cette vieille dame si savante et si rusée en intrigue. « Cette perfide duchesse, se dit-elle, aura peut-être trouvé plaisant de me faire de la morale en me jouant quelque méchant tour de sa façon. » À cette pensée, l'amour-propre de madame de Vaudremont fut peut-être encore plus fortement intéressé que sa curiosité à démêler le fil de cette intrigue. La préoccupation intérieure à laquelle elle fut en proie ne la laissa pas maîtresse d'elle-même. Le colonel, interprétant à son avantage la gêne répandue dans les discours et les manières de la comtesse, n'en devint que plus ardent et plus pressant. Les vieux diplomates blasés, qui s'amusaient à observer le jeu des physionomies, n'avaient jamais rencontré tant d'intrigues à suivre ou à deviner. Les passions qui agitaient le double couple se diversifiaient à chaque pas dans ces salons animés en se représentant avec d'autres nuances sur d'autres figures. Le spectacle de tant de passions vives, toutes ces querelles d'amour, ces vengeances douces, ces faveurs cruelles, ces regards enflammés, toute cette vie brûlante répandue autour d'eux ne leur faisait sentir que plus vivement leur impuissance. Enfin, le baron avait pu s'asseoir auprès de la comtesse de Soulanges. Ses yeux erraient à la dérobée sur un cou frais comme la rosée, parfumé comme une fleur des champs. Il admirait de près des beautés qui de loin l'avaient étonné. Il pouvait voir un petit pied bien chaussé, mesurer de l'œil une taille souple et gracieuse. À cette époque, les femmes nouaient la ceinture de leur robe précisément au-dessous du sein, à l'imitation des statues grecques, mode impitoyable pour les femmes dont le corsage avait quelques défauts. En jetant des regards furtifs sur ce sein, Martial resta ravi de la perfection des formes de la comtesse. « Vous n'avez pas dansé une seule fois ce soir, madame, » dit-il d'une voix douce et flatteuse. « Ce n'est pas faute de cavalier, j'imagine. » « Je ne vais point dans le monde, j'y suis inconnu, » répondit avec froideur madame de Soulanges, qui n'avait rien compris au regard par lequel sa tante venait de l'inviter à plaire au baron. Martial fit alors jouer par maintien le beau diamant qui ornait sa main gauche. Les feux jetés par la pierre semblèrent jeter une lueur subite dans l'âme de la jeune comtesse qui rougit et regarda le baron avec une expression indéfinissable. « Aimez-vous la danse ?» demanda le Provençal pour essayer de renouer la conversation. « Oh, beaucoup, monsieur !» À cette étrange réponse, leurs regards se rencontrèrent. Le jeune homme, surpris de l'accent pénétrant qui réveilla dans son cœur une vague espérance, avait subitement interrogé les yeux de la jeune femme. « Eh bien, madame, n'est-ce pas une témérité de ma part que de me proposer pour être votre partenaire à la première contredanse ?» Une confusion naïve rougit les joues blanches de la comtesse. « Mais, monsieur, j'ai déjà refusé un danseur, un militaire. Serait-ce ce grand colonel de cavalerie que vous voyez là-bas ? Précisément. Et c'est mon ami, ne craignez rien. M'accordez-vous la faveur que j'ose espérer ? Oui, monsieur. » Cette voix accusait une émotion si neuve et si profonde que l'âme blasée du maître des requêtes en fut ébranlée. Il se sentit envahi par une timidité de lycéen, perdit son assurance, sa tête méridionale s'enflamma. Il voulut parler, ses expressions lui parurent sans grâce, comparées aux réparties spirituelles et fines de madame de Soulanges. Il fut heureux pour lui que la contredanse commença. Debout près de sa belle danseuse, il se trouva plus à l'aise. Pour beaucoup d'hommes, la danse est une manière d'être. Ils pensent, en déployant les grâces de leur corps, agir plus puissamment que par l'esprit sur le cœur des femmes. Le Provençal voulait sans doute employer en ce moment tous ses moyens de séduction, à en juger par la prétention de tous ses mouvements et de ses gestes. Il avait amené sa conquête aux quadrilles où les femmes les plus brillantes du salon mettaient une chimérique importance à danser préférablement à tout autre. Pendant que l'orchestre exécutait le prélude de la première figure, le baron éprouvait une incroyable satisfaction d'orgueil. Quand, passant en revue les danseuses placées sur les lignes de ce carré redoutable, il s'aperçut que la toilette de madame de Soulanges défiait même celle de madame de Vaudremont qui, par un hasard cherché peut-être, faisait avec le colonel le vis-à-vis du baron et de la dame bleue. Les regards se fixèrent un moment sur madame de Soulanges. Un murmure flatteur annonça qu'elle était le sujet de la conversation de chaque partenaire avec sa danseuse. Les œillades d'envie et d'admiration se croisaient si vivement sur elle que la jeune femme, honteuse d'un triomphe auquel elle semblait se refuser, baissa modestement les yeux, rougit et n'en devint que plus charmante. Si elle releva ses blanches paupières, ce fut pour regarder son danseur enivré, comme si elle eût voulu lui reporter la gloire de ses hommages et lui dire qu'elle préférait le sien à tous les autres. Elle mit de l'innocence dans sa coquetterie, ou plutôt elle parut se livrer à la naïve admiration par laquelle commence l'amour avec cette bonne foi qui ne se rencontre que dans de jeunes cœurs. Quand elle dansa, les spectateurs purent facilement croire qu'elle ne déployait ses grâces que pour Martial. Et, quoique modeste et neuve au manège des salons, elle sut aussi bien que la plus savante coquette lever à propos les yeux sur lui, les baisser avec une feinte modestie. Quand les lois nouvelles d'une contredanse, inventée par le danseur Trénis, et à laquelle il donna son nom, amenèrent Martial devant le colonel, « J'ai gagné ton cheval, » lui dit-il en riant. « Oui, mais tu as perdu 80 000 livres de rente, » lui répliqua le colonel en lui montrant madame de Vaudremont. « Et qu'est-ce que cela me fait ? » répondit Martial. « Madame de Soulanges vaut des millions. » À la fin de cette contredanse, plus d'un chuchotement résonnait à plus d'une oreille. Les femmes les moins jolies faisaient de la morale avec leurs danseurs à propos de la naissante liaison de Martial et de la comtesse de Soulanges. Les plus belles s'étonnaient d'une telle facilité. Les hommes ne concevaient pas le bonheur du petit maître des requêtes, auquel ils ne trouvaient rien de bien séduisant. Quelques femmes indulgentes disaient qu'il ne fallait pas se presser de juger la comtesse. Les jeunes personnes seraient bien malheureuses si un regard expressif ou quelques pas gracieusement exécutés suffisaient pour compromettre une femme. Martial seul connaissait l'étendue de son bonheur. À la dernière figure, quand les dames du quadrille eurent à former le moulinet, ses doigts pressèrent alors ceux de la comtesse, et il crut sentir à travers la peau fine et parfumée des gants que les doigts de la jeune femme répondaient à son amoureux appel. « Madame, lui dit-il au moment où la contredanse se termina, Ne retournez pas dans cet odieux coin où vous avez enseveli jusqu'ici votre figure et votre toilette. L'admiration est-elle le seul revenu que vous puissiez tirer des diamants qui parent votre cou si blanc et vos nattes si bien tressées? Venez faire une promenade dans les salons pour y jouir de la fête et de vous-même. » Madame de Soulanges suivit son séducteur, qui pensait qu'elle lui appartiendrait plus sûrement s'il parvenait à l'afficher. Tous deux, ils firent alors quelques tours à travers les groupes qui encombraient les salons de l'hôtel. La comtesse de Soulanges, inquiète, s'arrêtait un instant avant d'entrer dans chaque salon, et n'y pénétrait qu'après avoir tendu le cou pour jeter un regard sur tous les hommes. Cette peur, qui comblait de joie le petit maître des requêtes, ne semblait calmée que quand il avait dit à sa tremblante compagne « Rassurez-vous, il n'y est pas ». Ils parvinrent ainsi jusqu'à une immense galerie de tableaux, située dans une aile de l'hôtel, et où l'on jouissait par avance du magnifique aspect d'un ambigu, préparé pour 300 personnes. Comme le repas allait commencer, Martial entraîna la comtesse vers un boudoir ovale, donnant sur les jardins, et où les fleurs les plus rares et quelques arbustes formaient un bocage parfumé sous de brillantes draperies bleues. Le murmure de la fête venait y mourir. La comtesse tressaillit en y entrant et refusa obstinément d'y suivre le jeune homme. Mais, après avoir jeté les yeux sur une glace, elle y vit sans doute des témoins, car elle alla s'asseoir d'assez bonne grâce sur une ottomane. « Cette pièce est délicieuse, » dit-elle en admirant une tenture bleue de ciel relevée par des perles. « Tout y est amour et volupté, » dit le jeune homme fortement ému. À la faveur de la mystérieuse clarté qui régnait, il regarda la comtesse et surprit sur sa figure doucement agitée une expression de trouble, de pudeur, de désir qui l'enchanta. La jeune femme sourit, et ce sourire sembla mettre fin à la lutte des sentiments qui se heurtaient dans son cœur. Elle prit de la manière la plus séduisante la main gauche de son adorateur et lui ôta du doigt la bague sur laquelle ses yeux s'étaient arrêtés. « Le beau diamant !» s'écria-t-elle avec la naïve expression d'une jeune fille qui laisse voir les chatouillements d'une première tentation. Martial, ému de la caresse involontaire mais enivrante que la comtesse lui avait faite, en dégageant le brillant, arrêta sur elle des yeux aussi étincelants que la bague. « Portez-la, lui dit-il, en souvenir de cette heure céleste et pour l'amour de... » Elle le contemplait avec tant d'extase qu'il n'acheva pas. Il lui baisa la main. « Vous me la donnez ? » dit-elle avec un air d'étonnement. « Je voudrais vous offrir le monde entier. » « Vous ne plaisantez pas ? » reprit-elle d'une voix altérée par une satisfaction trop vive. « N'acceptez-vous que mon diamant ?»« Vous ne me le reprendrez jamais ? » demanda-t-elle. « Jamais. » Elle mit la bague à son doigt. Martial, comptant sur un prochain bonheur, fit un geste pour passer sa main sur la taille de la comtesse qui se leva tout à coup, et dit d'une voix claire, sans aucune émotion, « Monsieur, j'accepte ce diamant avec d'autant moins de scrupules qu'il m'appartient. » Le maître des requêtes resta tout interdit. « Monsieur de Soulanges le prit dernièrement sur ma toilette et me dit l'avoir perdu. « Vous êtes dans l'erreur, madame, » dit Martial d'un air piqué. « Je le tiens de madame de Vaudremont. »« Précisément, » répliqua-t-elle en souriant. « Mon mari m'a emprunté cette bague, la lui a donnée. » Elle vous en a fait présent, ma bague a voyagé, voilà tout. Cette bague me dira peut-être tout ce que j'ignore, et m'apprendra le secret de toujours plaire. Monsieur, reprit-elle, si elle n'eût pas été à moi, soyez sûr que je ne me serais pas hasardé à la payer si cher, car une jeune femme est, dit-on, en péril près de vous. Mais tenez, ajouta-t-elle en faisant jouer un ressort caché sous la pierre, les cheveux de monsieur de Soulanges y sont encore. Elle s'élança dans les salons avec une telle prestesse qu'il paraissait inutile d'essayer de la rejoindre. Et d'ailleurs, Martial, confondu, ne se trouva pas d'humeur à tenter l'aventure. Le rire de madame de Soulanges avait trouvé un écho dans le boudoir où le jeune Fat aperçut entre deux arbustes le colonel et madame de Vaudremont qui riaient de tout cœur. « Veux-tu mon cheval pour courir après ta conquête ?» lui dit le colonel. la bonne grâce avec laquelle le baron supporta les plaisanteries dont l'accablèrent madame de Vaudremont et Montcornet lui valut leur discrétion sur cette soirée, où son ami troqua son cheval de bataille contre une jeune, riche et jolie femme. Pendant que la comtesse de Soulanges franchissait l'intervalle qui sépare la chaussée d'Antin du faubourg Saint-Germain où elle demeurait, son âme fut en proie aux plus vives inquiétudes. Avant de quitter l'hôtel de Gondreville, elle en avait parcouru les salons sans y rencontrer ni sa tante, ni son mari, parti sans elle. D'affreux pressentiments vinrent alors tourmenter son âme ingénue. Témoin discret des souffrances éprouvées par son mari depuis le jour où madame de Vaudremont l'avait attaché à son char, elle espérait avec confiance qu'un prochain repentir lui ramènerait son époux. Aussi était-ce avec une incroyable répugnance qu'elle avait consenti au plan formé par sa tante, madame de Grandlieu, et en ce moment elle craignait d'avoir commis une faute. Cette soirée avait attristé son âme candide. Effrayée d'abord de l'air souffrant et sombre du comte de Soulanges, elle le fut encore plus par la beauté de sa rivale, et la corruption du monde lui avait serré le cœur. En passant sur le pont royal, elle jeta les cheveux profanés qui se trouvaient sous le diamant, jadis offert comme le gage d'un amour pur. Elle pleura en se rappelant les vives souffrances auxquelles elle était depuis si longtemps en proie, et frémit plus d'une fois en pensant que le devoir des femmes qui veulent obtenir la paix en ménage les obligeait à ensevelir au fond du cœur, et sans se plaindre, des angoisses aussi cruelles que les siennes. « Hélas ! Se dit-elle, comment peuvent faire les femmes qui n'aiment pas ? Où est la source de leur indulgence ? Je ne saurais croire, comme le dit ma tante, que la raison suffise pour les soutenir dans de tels dévouements. » Elle soupirait encore quand son chasseur abaissa l'élégant marchepied d'où elle s'élança, sous le vestibule de son hôtel. Elle monta l'escalier avec précipitation, et quand elle arriva dans sa chambre, elle tressaillit de terreur en y voyant son mari, assis, auprès de la cheminée. « Depuis quand, ma chère, allez-vous au bal sans moi, sans me prévenir ? » demanda-t-il d'une voix altérée. « Sachez qu'une femme est toujours déplacée sans son mari. Vous étiez singulièrement compromise dans le coin obscur où vous vous étiez nichée. « Oh, mon beau Léon, » dit-elle d'une voix caressante, « je n'ai pu résister au bonheur de te voir sans que tu me visses. Ma tante m'a menée à ce bal, et j'y ai été bien heureuse. » Ces accents désarmèrent les regards du comte de leur sévérité factice, car il venait de se faire de vifs reproches à lui-même, en appréhendant le retour de sa femme, sans doute instruite au bal d'une infidélité qu'il espérait lui avoir cachée. Et selon la coutume des amants qui se sentent coupables, il essayait, en querellant la comtesse le premier, d'éviter sa trop juste colère. Il regarda silencieusement sa femme, qui dans sa brillante parure lui sembla plus belle que jamais. Heureuse de voir son mari souriant, et de le trouver à cette heure dans une chambre où, depuis quelque temps, il était venu moins fréquemment, la comtesse le regarda si tendrement qu'elle rougit et baissa les yeux. Cette clémence enivra d'autant plus Soulanges que cette scène succédait au tourment qu'il avait ressenti pendant le bal. Il saisit la main de sa femme et la baisa par reconnaissance. Ne se rencontre-t-il pas souvent de la reconnaissance dans l'amour ? Hortense, qu'as-tu donc au doigt qui m'a fait tant de mal aux lèvres ? Demanda-t-il en riant. C'est mon diamant, que tu disais perdu et que j'ai retrouvé. Le général Montcornet n'épousa point madame de Vaudremont, malgré la bonne intelligence dans laquelle tous deux vécurent pendant quelques instants, car elle fut une des victimes de l'épouvantable incendie qui rendit à jamais célèbre le bal donné par l'ambassadeur d'Autriche à l'occasion du mariage de l'empereur Napoléon avec la fille de l'empereur François II. Juillet 1829. Fin de la 39e section. Quarantième section des scènes de la vie privée, tome 1. La fausse maîtresse. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scène de la vie privée, tome 1. La fausse maîtresse. Par Honoré de Balzac. 40e section. Dédié à la comtesse Clara Maffei. Au mois de septembre 1835, une des plus riches héritières du faubourg Saint-Germain, mademoiselle du Rouvre, fille unique du marquis du Rouvre, épousa le comte Adam Mijislas Lajinski, jeune polonais proscrit. Qu'il soit permis d'écrire les noms comme ils se prononcent, pour épargner au lecteur l'aspect des fortifications de consonnes par lesquelles la langue slave protège ses voyelles, sans doute afin de ne pas les perdre, vu leur petit nombre. Le marquis du Rouvre avait presque entièrement dissipé l'une des plus belles fortunes de la noblesse, et à laquelle il dit autrefois son alliance avec une demoiselle de Ronquerolles. Ainsi, du côté maternel, Clémentine du Rouvre avait pour oncle le marquis de Ronquerolles, et pour tante Madame de Sérisy. Du côté paternel, elle jouissait d'un autre oncle dans la bizarre personne du chevalier du Rouvre, cadet de la maison, vieux garçon devenu riche en trafiquant sur les terres et sur les maisons. Le marquis de Ronquerolles eut le malheur de perdre ses deux enfants à l'invasion du choléra. Le fils unique de Madame de Sérisy, jeune militaire de la plus haute espérance, périt en Afrique à l'affaire de la Macta. Aujourd'hui, les familles riches sont entre le danger de ruiner leurs enfants si elles en ont trop, ou celui de s'éteindre en s'en tenant à un ou deux, un singulier effet du code civil auquel Napoléon n'a pas songé. Par un effet du hasard, malgré les dissipations insensées du marquis du Rouvre pour Florine, une des plus charmantes actrices de Paris, Clémentine devint donc une héritière. Le marquis de Ronquerolles, un des plus habiles diplomates de la nouvelle dynastie, sa sœur, Madame de Sérisy, et le chevalier du Rouvre convinrent, pour sauver leur fortune des griffes du marquis, d'en disposer en faveur de leur nièce, à laquelle ils promirent d'assurer, au jour de son mariage, chacun 10 000 francs de rente. Il est parfaitement inutile de dire que le Polonais, quoique réfugié, ne coûtait absolument rien au gouvernement français. Le comte Adam appartient à l'une des plus vieilles et des plus illustres familles de la Pologne, alliée à la plupart des maisons princières de l'Allemagne, aux Sapieha, aux Radziwill, aux Rzewuski, aux Kartoriski, aux Legzinski, aux Lablonowski, etc. Mais les connaissances héraldiques ne sont pas ce qui distingue la France sous Louis-Philippe, et cette noblesse ne pouvait être une recommandation auprès de la bourgeoisie qui trônait alors. D'ailleurs, quand en 1833, Adam se montra sur le boulevard des Italiens, à Frascati, au Jockey Club, il mena la vie d'un jeune homme qui, perdant ses espérances politiques, retrouvait ses vices et son amour pour le plaisir. On le prit pour un étudiant. La nationalité polonaise, par l'effet d'une odieuse réaction gouvernementale, était alors tombée aussi bas que les républicains la voulaient mettre haut. La lutte étrange du mouvement contre la résistance, deux mots qui seront inexplicables dans 30 ans, fit un jouet de ce qui devait être si respectable. Le nom d'une nation vaincue à qui la France accordait l'hospitalité, pour qui l'on inventait des fêtes, pour qui l'on chantait et l'on dansait par souscription. Enfin, une nation qui, lors de la lutte entre l'Europe et la France, lui avait offert 6 000 hommes en 1796. Et quels hommes ! N'allez pas inférer de ceci que l'on veuille donner tort à l'empereur Nicolas contre la Pologne, ou à la Pologne contre l'empereur Nicolas. Ce serait d'abord une assez sotte chose que de glisser des discussions politiques dans un récit qui doit ou amuser ou intéresser. Puis, la Russie et la Pologne avaient également raison, l'une de vouloir l'unité de son empire, l'autre de vouloir redevenir libre. Disons en passant que la Pologne pouvait conquérir la Russie par l'influence de ses mœurs, au lieu de la combattre par les armes, en imitant les Chinois, qui ont fini par chinoiser les Tartares, et qui chinoiseront les Anglais, il faut l'espérer. La Pologne devait poloniser la Russie. Poniatowski l'avait essayé dans la région la moins tempérée l'Empire. Mais ce gentilhomme fut un roi d'autant plus incompris que peut-être ne se comprenait-il pas bien lui-même. Comment n'aurait-on pas haï de pauvres gens qui furent la cause de l'horrible mensonge commis pendant la revue où tout Paris demandait à secourir la Pologne ? On feignit de regarder les Polonais comme les alliés du parti républicain, sans songer que la Pologne était une république aristocratique. Dès lors, la bourgeoisie accabla de ses ignobles dédains le Polonais que l'on déifiait quelques jours auparavant. Le vent d'une émeute a toujours fait varier les Parisiens du nord au midi sous tous les régimes. Il faut bien rappeler ces revirements de l'opinion parisienne pour expliquer comment le mot polonais était en 1835 un qualificatif dérisoire chez le peuple qui se croit le plus spirituel et le plus poli du monde, au centre des Lumières, dans une ville qui tient aujourd'hui le sceptre des arts et de la littérature. Il existe, hélas, deux sortes de Polonais réfugiés. Le Polonais républicain, fils de Lelewel, et le noble Polonais du parti à la tête duquel se place le prince Czartoryski. Ces deux sortes de Polonais sont l'eau et le feu. Mais pourquoi leur en vouloir? Ces divisions ne sont-elles pas toujours remarquées chez les réfugiés, à quelque nation qu'ils appartiennent, n'importe en quelle contrée ils aillent? On porte son pays et ses haines avec soi. À Bruxelles, deux prêtres français émigrés manifestaient une profonde horreur l'un contre l'autre. Et quand on demanda pourquoi à l'un d'eux, il répondit en montrant son compagnon de misère « C'est un janséniste ». Dante eut volontiers poignardé dans son exil un adversaire des Blancs. Là gît la raison des attaques dirigées contre le vénérable prince Adam Czartoryski par les radicaux français et celle de la défaveur répandue sur une partie de l'émigration polonaise par les Césars de Boutique et les Alexandres de la Patente. En 1834, Adam Mieczysław eut donc contre lui les plaisanteries parisiennes. Il est gentil, quoique polonais, disait de lui Rastignac. Tous ces Polonais se prétendent grands seigneurs, disait Maxime de Trailles, mais celui-ci paye ses dettes de jeu. Je commence à croire qu'il a eu des terres. Sans vouloir offenser des bannis, il est permis de faire observer que la légèreté, l'insouciance, l'inconsistance du caractère sarmate autorisèrent les médisances des Parisiens qui, d'ailleurs, ressembleraient parfaitement aux Polonais en semblable occurrence. L'aristocratie française, si admirablement secourue par l'aristocratie polonaise pendant la Révolution, n'a certes pas rendu l'appareil à l'émigration forcée de 1832. Ayons le triste courage de le dire, le faubourg Saint-Germain est encore débiteur de la Pologne. Le comte Adam était-il riche, était-il pauvre, était-ce un aventurier? Ce problème resta pendant longtemps indécis. Les salons de la diplomatie, fidèles à leurs instructions, imitèrent le silence de l'empereur Nicolas, qui considérait alors comme mort tout émigré polonais. Les Tuileries et la plupart de ceux qui y prennent leur mot d'ordre donnèrent une horrible preuve de cette qualité politique décorée du titre de sagesse. On y méconnut un prince russe avec qui l'on fumait des cigares pendant l'émigration, parce qu'il paraissait avoir encouru la disgrâce de l'empereur Nicolas. Placé entre la prudence de la cour et celle de la diplomatie, les Polonais de distinction vivaient dans la solitude biblique de Super Flumina Babylonis, ou hantaient certains salons qui servent de terrain neutre à toutes les opinions. Dans une ville de plaisir comme Paris, où les distractions abondent à tous les étages, l'étourderie polonaise trouva deux fois plus de motifs qu'il ne lui en fallait pour mener la vie dissipée des garçons. Enfin, disons-le, Adam eut d'abord contre lui sa tournure et ses manières. Il y a deux Polonais comme il y a deux Anglaises. Quand une Anglaise n'est pas très belle, elle est horriblement laide. Et le comte Adam appartient à la seconde catégorie. Sa petite figure assez aigre de ton semble avoir été pressée dans un étau. Son nez court, ses cheveux blonds, ses moustaches et sa barbe rousse lui donnent d'autant plus l'air d'une chèvre qu'il est petit, maigre, et que ses yeux d'un jaune sale vous saisissent par ce regard oblique si célèbre par le vers de Virgile. Comment, malgré tant de conditions défavorables, possède-t-il des manières et un ton exquis? La solution de ce problème s'explique et par une tenue de dandy et par l'éducation due à sa mère, une Radziwill. Si son courage va jusqu'à la témérité, son esprit ne dépasse point les plaisanteries courantes et éphémères de la conversation parisienne. Mais il ne rencontre pas souvent parmi les jeunes gens à la mode un garçon qui lui soit supérieur. Les gens du monde causent aujourd'hui beaucoup trop chevaux, revenus, impôts, députés, pour que la conversation française reste ce qu'elle fut. L'esprit veut du loisir et certaines inégalités de position. On cause peut-être mieux à Pétersbourg et à Vienne qu'à Paris. Des égaux n'ont plus besoin de finesse, ils se disent alors tout bêtement les choses comme elles sont. Les moqueurs de Paris retrouvèrent donc difficilement un grand seigneur dans une espèce d'étudiant léger qui, dont le discours passait avec insouciance d'un sujet à un autre, qui courait après les amusements avec d'autant plus de fureur qu'il venait d'échapper à de grands périls et que, sorti de son pays, où sa famille était connue, il se crut libre de mener une vie décousue sans courir les risques de la déconsidération. Un beau jour, en 1834, Adam acheta rue de la Pépinière un hôtel. 6 mois après cette acquisition, sa tenue égala celle des plus riches maisons de Paris. Au moment où Laginski commençait à se faire prendre au sérieux, il vit Clémentine aux Italiens et devint amoureux d'elle. Un an après, le mariage eut lieu. Le salon de Madame d'Espard donna le signal des louanges. Les mères de famille apprirent trop tard que, dès l'an 900, les Laginski se comptaient parmi les familles illustres du Nord. Par un trait de prudence anti-polonaise, la mère du jeune comte avait, au moment de l'insurrection, hypothéqué ses biens d'une somme immense prêtée par 2 maisons juives et placée dans les fonds français. Le comte Adam Laginski possédait 80 000 francs de rente. On ne s'étonna plus de l'imprudence avec laquelle, selon beaucoup de salons, Madame de Sérisy, le vieux diplomate Ronquerolles et le chevalier du Rouvre cédaient à la folle passion de leur nièce. On passa, comme toujours, d'un extrême à l'autre. Pendant l'hiver de 1836, le comte Adam fut à la mode, et Clémentine Laginska devint une des reines de Paris. Madame de Laginska fait aujourd'hui partie de ce charmant groupe de jeunes femmes où brillent mesdames de l'Estorade, de Portenduère, Marie de Vandenesse, du Guénic et de Maufrigneuse, les fleurs du Paris actuel, qui vivent à une grande distance des parvenus, des bourgeois et des faiseurs de la nouvelle politique. Ce préambule était nécessaire pour déterminer la sphère dans laquelle s'est passée une de ces actions sublimes, moins rares que les détracteurs du temps présent ne le croient, qui sont, comme les belles perles, le fruit d'une souffrance ou d'une douleur, et qui, semblables aux perles, sont cachées sous de rudes écailles, perdues enfin au fond de ce gouffre, de cette mer, de cette onde incessamment remuée, nommée le monde, le siècle, Paris, Londres ou Pétersbourg, comme vous voudrez. Fin de la 40e section. Section des scènes de la vie privée, tome 1, La fausse maîtresse. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, La fausse maîtresse, par Honoré de Balzac. 41e section. Si jamais cette vérité, que l'architecture et l'expression des mœurs, fut démontrée, n'est-ce pas depuis l'insurrection de 1830, sous le règne de la maison d'Orléans? Toutes les fortunes se rétrécissant en France, les majestueux hôtels de nos pères sont incessamment démolis et remplacés par des espèces de phalanstères où le pair de France de Juillet habite un 3e étage au-dessus d'un empirique enrichi. Les styles sont confusément employés. Comme il n'existe plus de cour ni de noblesse pour donner le ton, on ne voit aucun ensemble dans les productions de l'art. De son côté, jamais l'architecture n'a découvert plus de moyens économiques pour singer le vrai, le solide, et n'a déployé plus de ressources, plus de génie dans les distributions. Proposez à un artiste la lisière du jardin d'un vieil hôtel abattu, il vous y bâtit un petit louvre écrasé d'ornements. Il y trouve une cour, des écuries, et si vous y tenez, un jardin. À l'intérieur, il accumule tant de petites pièces et de dégagements, il sait si bien tromper l'œil qu'on s'y croit à l'aise. Enfin, il y foisonne tant de logements qu'une famille ducale fait ses évolutions dans l'ancien fournil d'un président à mortier. L'hôtel de la comtesse Laginska, rue de la Pépinière, une de ses créations modernes, est entre cour et jardin. À droite, dans la cour, s'étendent les communs, auxquels répondent, à gauche, les remises et les écuries. La loge du concierge s'élève entre 2 charmantes portes cochères. Le grand luxe de cette maison consiste en une charmante serre, agencée à la suite d'un boudoir au rez-de-chaussée, où se déploient d'admirables appartements de réception. Un philanthrope chassé d'Angleterre avait bâti cette bijouterie architecturale, construit la serre, dessiné le jardin, verni les portes, briqueté les communs, verdi les fenêtres et réalisé l'un de ses rêves pareils, toute proportion gardée, à celui de George IV à Brighton. Le fécond, l'industrieux, le rapide ouvrier de Paris lui avait sculpté ses portes et ses fenêtres. On lui avait imité les plafonds du Moyen-Âge ou ceux des palais vénitiens et prodigué les plaquages de marbre en tableaux extérieurs. Elscoët et Klagman travaillèrent les dessus de portes et les cheminées. Boulanger avait magistralement peint les plafonds. Les merveilles de l'escalier, blanc comme le bras d'une femme, défiaient celles de l'hôtel Rothschild. À cause des émeutes, le prix de cette folie ne monta pas à plus de 1 100 000 francs. Pour un Anglais, ce fut donné. Tout ce luxe, dit princier par des gens qui ne savent plus ce qu'est un vrai prince, tenait dans l'ancien jardin de l'hôtel d'un fournisseur, un des Crésus de la Révolution, mort à Bruxelles en faillite après un sang-dessus-dessous de bourse. L'Anglais mourut à Paris, de Paris, car pour bien des gens, Paris est une maladie. Il est quelquefois plusieurs maladies. Sa veuve, une méthodiste, manifesta la plus profonde horreur pour la petite maison du nabab. Ce philanthrope était un marchand d'opium. La pudique veuve ordonna de vendre le scandaleux immeuble, au moment où les émeutes mettaient en question la paix à tout prix. Le comte Adam profita de cette occasion, vous saurez comment, car rien n'était moins dans ses habitudes de grand seigneur. Derrière cette maison, bâtie en pierre brodée comme melon, s'étale le velours vert d'une pelouse anglaise, ombragée au fond par un élégant massif d'arbres exotiques, d'où s'élance un pavillon chinois avec ses clochettes muettes et ses œufs dorés immobiles. La serre et ses constructions fantastiques déguisent le mur de clôture au midi. L'autre mur, qui fait face à la serre, est caché par des plantes grimpantes façonnées en portiques à l'aide de mâts peints en vert et réunis par des traverses. Cette prairie, ce monde de fleurs, ces allées sablées, ce simulacre de forêt, ces palissades aériennes se développent dans 25 perches carrées, qui valent aujourd'hui 400 000 francs, la valeur d'une vraie forêt. Au milieu de ce silence obtenu dans Paris, les oiseaux chantent. Il y a des merles, des rossignols, des bouvreuils, des fauvettes et beaucoup de moineaux. La serre est une immense jardinière où l'air est chargé de parfums, où l'on se promène en hiver comme si l'été brillait de tous ses feux. Les moyens par lesquels on compose une atmosphère à sa guise, la torride, la Chine ou l'Italie, sont habilement dérobés au regard. Les tubes où circule l'eau bouillante, la vapeur, un calorique quelconque, sont enveloppés de terre et se produisent au regard comme des guirlandes de fleurs vivantes. Vaste est le boudoir. Sur un terrain restreint, le miracle de cette fée parisienne appelée l'architecture est de rendre tout grand. Le boudoir de la jeune comtesse fut la coquetterie de l'artiste, à qui le comte Adam livra l'hôtel à décorer de nouveau. Une faute y est impossible. Il y a trop de jolis riens. L'amour ne saurait où se poser parmi des travailleuses sculptées en Chine, où l'œil aperçoit des milliers de figures bizarres fouillées dans l'ivoire et dont la génération a usé deux familles chinoises. Des coupes de topazes brûlées montées sur un pied de filigrane, des mosaïques qui inspirent le vol, des tableaux hollandais comme en refait Meissonnier, des anges conçus comme les exécute Gérard Séguin, qui ne veut pas vendre les siens, des statuettes sculptées par des génies poursuivis par leurs créanciers, véritable explication des mythes arabes, les sublimes ébauches de nos premiers artistes, des devants de bahut pour boiserie et dont les panneaux alternent avec les fantaisies de la soierie indienne, des portières qui s'échappent en flots dorés de dessous une traverse en chêne noire où grouille une chasse entière, des meubles dignes de Madame de Pompadour, un tapis de Perse, etc. Enfin, dernière grâce, ces richesses éclairées par un demi-jour qui filtre à travers deux rideaux de dentelle en paraissaient encore plus charmantes. Sur une console, parmi des antiquités, une cravache dont le bout fut sculpté par Mademoiselle de Fauveau disait que la comtesse aimait à monter à cheval. Tel est un boudoir en 1837, un étalage de marchandises qui divertissent les regards comme si l'ennui menaçait la société la plus remueuse et la plus remuée du monde. Pourquoi rien d'intime, rien qui porte à la rêverie, au calme? Pourquoi? Personne n'est sûr de son lendemain, et chacun jouit de la vie en usufruitier prodigue. Par une matinée, Clémentine se donnait l'air de réfléchir, étalée sur une de ces méridiennes merveilleuses d'où l'on ne peut pas se lever, tant le tapissier qui les inventa sut saisir les rondeurs de la paresse et les aises du farniente. Les portes de la serre ouverte laissaient pénétrer les odeurs de la végétation et les parfums du tropique. La jeune femme regardait Adam fumant devant elle un élégant narguilé, la seule manière de fumer qu'elle eût permise dans cet appartement. Les portières, pincées par d'élégantes embrasses, ouvraient au regard deux magnifiques salons, l'un blanc et or, comparable à celui de l'hôtel Forbin-Janson, l'autre en style de la Renaissance. La salle à manger, qui n'a de rivale à Paris que celle du marquis de Custines, se trouve au bout d'une petite galerie plafonnée et décorée dans le genre Moyen-Âge. La galerie est précédée du côté de la cour par une grande antichambre d'où l'on aperçoit, à travers les portes en glace, les merveilles de l'escalier. Le comte et la comtesse venaient de déjeuner. Le ciel offrait une nappe d'azur sans le moindre nuage. Le mois d'avril finissait. Ce ménage comptait 2 ans de bonheur, et Clémentine avait depuis 2 jours seulement découvert dans sa maison quelque chose qui ressemblait à un secret, à un mystère. Le Polonais, disons-le encore à sa gloire, est généralement faible devant la femme. Il est si plein de tendresse pour elle qu'il lui devient inférieur en Pologne. Et quoique les Polonaises soient d'admirables femmes, le Polonais est encore plus promptement mis en déroute par une Parisienne. Aussi, le comte Adam, pressé de questions, n'eut-il pas l'innocente rouerie de vendre le secret à sa femme. Avec une femme, il faut toujours tirer parti d'un secret. Elle vous en sait gré, comme un fripon accorde son respect à l'honnête homme qu'il n'a pas pu jouer. Plus brave que parleur, le comte avait seulement stipulé de ne répondre qu'après avoir fini son narguilé plein de tombaki. « En voyage, disait-elle, à toute difficulté, tu me répondais par « Paz arrangera cela. Tu n'écrivais qu'à Paz. De retour ici, tout le monde me dit « Le capitaine. Je veux sortir, le capitaine. S'agit-il d'acquitter un mémoire, le capitaine. Mon cheval a-t-il le trot dur, on en parle au capitaine Paz. Enfin, ici, c'est pour moi comme au jeu de domino. Il y a Paz partout. Je n'entends parler que de Paz, et je ne peux pas voir Paz. Qu'est-ce que c'est que Paz? Qu'on m'apporte notre Paz. » Tout ne va donc pas bien? Dit le comte en quittant le bocchettino de son narguilé. Tout va si bien qu'avec 200 000 francs de rente, on se ruinerait à mener le train que nous avons avec 110 000 francs, dit-elle. Elle tira le riche cordon de sonnette, fait au petit point, une merveille. Un valet de chambre, habillé comme un ministre, vint aussitôt. « Dites à monsieur le capitaine Paz que je désire lui parler. » « Si vous croyez apprendre quelque chose ainsi, » dit en souriant le comte Adam. Il n'est pas inutile de faire observer qu'Adam et Clémentine, mariés au mois de décembre 1835, étaient allés, après avoir passé l'hiver à Paris, en Italie, en Suisse et en Allemagne pendant l'année 1836. Revenue au mois de novembre, la comtesse reçut pour la première fois pendant l'hiver qui venait de finir, et s'aperçut alors de l'existence quasi muette, effacée, mais salutaire, d'un factotum dont la personne paraissait invisible, ce capitaine Paz, P-A-C-C-D-I, dont le nom se prononce comme il est écrit. Monsieur le capitaine Paz prit madame la comtesse de l'excuser. Il est aux écuries, et dans un costume qui ne lui permet pas de venir à l'instant. Mais une fois habillé, le comte Paz se présentera, dit le valet de chambre. Que faisait-il donc? Il montrait comment doit se panser le cheval de madame, que Constantin ne brossait pas à sa fantaisie, répondit le valet de chambre. La comtesse regarda son domestique, il était sérieux et se gardait bien de commenter sa phrase par le sourire que se permettent les inférieurs, en parlant d'un supérieur qui leur paraît descendu jusqu'à eux. « Ah, il brossait Cora !»« Madame la comtesse ne monte-t-elle pas à cheval ce matin ?» Le valet de chambre s'en alla sans réponse. « Est-ce un Polonais ? demanda Clémentine à son mari qui inclina la tête en manière d'affirmation.
Clémentine Laginska resta muette en examinant Adam. Les pieds presque tendus sur un coussin, la tête dans la position de celle d'un oiseau qui écoute au bord de son nid les bruits du bocage, elle eût paru ravissante à un homme blasé. Blonde et mince, les cheveux à l'anglaise, elle ressemblait alors à ces figures quasi fabuleuses des Kipsix, surtout vêtue de son peignoir en soie façon de Perse, dont les plis touffus ne déguisaient pas si bien les trésors de son corps et la finesse de la taille qu'on ne put les admirer à travers ses voiles épais de fleurs et de broderies. En se croisant sur sa poitrine, l'étoffe aux brillantes couleurs laissait voir le bas du cou, dont les tons blancs contrastaient avec ceux d'une riche guipure appliquée sur les épaules. Les yeux, bordés de cils noirs, ajoutaient à l'expression de curiosité qui fronçait une jolie bouche. Sur le front bien modelé, l'on remarquait les rondeurs caractéristiques de la Parisienne volontaire, rieuse, instruite, mais inaccessible à des séductions vulgaires. Ses mains pendaient au bout de chaque bras de son fauteuil, presque transparentes. Ses doigts en fuseau et retroussés, du bout, montraient des ongles, espèces d'amandes roses, où s'arrêtait la lumière. Adam souriait de l'impatience de sa femme, et la regardait d'un œil que la satiété conjugale ne tiédissait pas encore. Déjà, cette petite comtesse fluette avait su se rendre maîtresse chez elle, car elle répondit à peine aux admirations d'Adam. Dans ses regards jetés à la dérobée sur lui, peut-être y avait-il déjà la conscience de la supériorité d'une Parisienne sur ce Polonais mièvre, maigre et rouge. « Voilà Paz, » dit le comte en entendant un pas qui retentissait dans la galerie. La comtesse vit entrer un grand bel homme, bien fait, qui portait sur sa figure les traces de cette douceur, fruit de la force et du courage. Paz avait mis à la hâte une de ces redingotes serrées à brandebourgs attachées par des olives, qui jadis s'appelaient des polonaises. D'abondants cheveux noirs assez mal peignés entouraient sa tête carrée, et Clémentine put voir, brillant comme un bloc de marbre, un front large, car Paz tenait à la main une casquette à visière. Cette main ressemblait à celle de l'Hercule à l'enfant. La santé la plus robuste fleurissait sur ce visage également partagé par un grand nez romain qui rappela les beaux trastevérins à Clémentine. Une cravate en taffetas noir achevait de donner une tournure martiale à ce mystère de 5 pieds 7 pouces, aux yeux de jais et d'un éclat italien. L'ampleur d'un pantalon à plis qui ne laissait voir que le bout des bottes trahissait le culte de Paz pour les modes de la Pologne. Vraiment, pour une femme romanesque, il y aurait eu du burlesque dans le contraste si heurté qui se remarquait entre le capitaine et le comte, entre ce petit Polonais à figure étroite et ce beau militaire, entre ce paladin et ce palatin. « Bonjour, Adam, » dit-il familièrement au comte. Puis il s'inclina gracieusement en demandant à Clémentine en quoi il pouvait la servir. « Vous êtes donc l'ami de Laginski, » dit la jeune femme. « À la vie à la mort, » répondit Paz, à qui le jeune comte jeta le plus affectueux sourire en lançant sa dernière bouffée de fumée odorante. « Eh bien, pourquoi ne mangez-vous pas avec nous? Pourquoi ne nous avez-vous pas accompagnés en Italie et en Suisse? Pourquoi vous cachez-vous ici de manière à vous dérober aux remerciements que je vous dois pour les services constants que vous nous rendez ? Dit la jeune comtesse avec une sorte de vivacité, mais sans la moindre émotion. En effet, elle démêlait en Paz une sorte de servitude volontaire. Cette idée n'allait pas alors sans une sorte de mésestime pour un amphibie social, un être à la fois secrétaire et intendant, ni tout à fait intendant, ni tout à fait secrétaire, quelque parent pauvre, un ami gênant. « C'est, comtesse, répondit-il assez librement, qu'il n'y a pas de remerciements à me faire. Je suis l'ami d'Adam, et je mets mon plaisir à prendre soin de ses intérêts. »« Tu restes debout pour ton plaisir aussi, » dit le comte Adam. Paz s'assit sur un fauteuil auprès de la portière. « Je me souviens de vous avoir vu lors de mon mariage, et quelquefois dans la cour, » dit la jeune femme. « Mais pourquoi vous placer dans une condition d'infériorité, vous, l'ami d'Adam ?» « L'opinion des Parisiens m'est tout à fait indifférente, dit-il. Je vis pour moi, ou, si vous voulez, pour vous deux. Mais l'opinion du monde sur l'ami de mon mari ne peut pas m'être indifférente.
Oh, madame, le monde est bientôt satisfait avec ce mot. C'est un original, dites-le. » Un moment de silence. « Comptez-vous sortir ? » demanda-t-il. « Voulez-vous venir au bois ? » répondit la comtesse. « Volontiers. » Sur ce mot, Paz sortit en saluant. « Quel bon être ! Il a la simplicité d'un enfant, » dit Adam. « Racontez-moi maintenant vos relations avec lui, » demanda Clémentine. « Paz, ma chère âme, » dit Laginski, « est d'une noblesse aussi vieille et aussi illustre que la nôtre. Lors de leur désastre, un des Pazzi se sauva de Florence en Pologne, où il s'établit avec quelque fortune et y fonda la famille Paz, à laquelle on a donné le titre de comte. Cette famille, qui s'est distinguée dans les beaux jours de notre République royale, est devenue riche. La bouture de l'arbre abattu en Italie a poussé si vigoureusement qu'il y a plusieurs branches de la maison comtale des Paz. Ce n'est donc pas t'apprendre quelque chose d'extraordinaire que de te dire qu'il existe des Paz riches et des Paz pauvres. Notre Paz est le rejeton d'une branche pauvre. Orphelin, sans autre fortune que son épée, il servait dans le régiment du grand-duc Constantin lors de notre révolution. Entraîné dans le parti polonais, il s'est battu comme un Polonais, comme un patriote, comme un homme qui n'a rien. Trois raisons pour se bien battre. À la dernière affaire, il se crut suivi par ses soldats et courut sur une batterie russe. Il fut pris. J'étais là. Ce trait de courage m'anime. « Allons le chercher, » dis-je à mes cavaliers. « Nous chargeons sur la batterie en fourrageur, et je délivre Paz, moi, septième. Nous étions partis 20, nous revînmes 8, y compris Paz. Varsovie, une fois vendue, il a fallu songer à échapper aux Russes. Par un singulier hasard, Paz et moi, nous nous sommes trouvés ensemble à la même heure, au même endroit, de l'autre côté de la fistule. Je vis arrêter ce pauvre capitaine par des Prussiens qui se sont fait alors les chiens de chasse des Russes. Quand on a repêché un homme dans le Styx, on y tient. Ce nouveau danger de Paz me fit tant de peine que je me laissai prendre avec lui, dans l'intention de le servir. Deux hommes peuvent se sauver là où un seul périt. Grâce à mon nom et à quelques liaisons de parenté avec ceux de qui notre sort dépendait, car nous étions alors entre les mains des Prussiens, on ferma les yeux sur mon évasion. Je fis passer mon cher capitaine pour un soldat sans importance, pour un homme de ma maison, et nous avons pu gagner Danzig. Nous nous y fourrâmes dans un navire hollandais partant pour Londres, où, deux mois après, nous abordâmes. Ma mère était tombée malade en Angleterre et m'y attendait. Paz et moi, nous l'avons soignée jusqu'à sa mort, que les catastrophes de notre entreprise avancèrent. Nous avons quitté Londres et j'emmenai Paz en France. En de pareilles adversités, deux hommes deviennent frères. Quand je me suis vu dans Paris, à 22 ans, riche de 60 et quelques 1000 francs de rente, sans compter les restes d'une somme provenant des diamants et des tableaux de famille vendus par ma mère, je voulus assurer le sort de Paz avant de me livrer aux dissipations de la vie à Paris. J'avais surpris un peu de tristesse dans les yeux du capitaine. Quelquefois il y roulait des larmes contenues. J'avais eu l'occasion d'apprécier son âme, qui est foncièrement noble, grande, généreuse. Peut-être regrettait-il de se voir lié par des bienfaits à un jeune homme de 6 ans moins âgé que lui, sans avoir pu s'acquitter envers lui. Insouciant et léger comme l'est un garçon, je devais me ruiner au jeu, me laisser entortiller par quelques parisiennes. Paz et moi, nous pouvions être un jour désunis. Tout en me promettant de pourvoir à tous ses besoins, j'apercevais bien des chances d'oublier ou d'être hors d'état de payer la pension de Paz. Enfin, mon ange, je voulus lui épargner la peine, la pudeur, la honte de me demander de l'argent ou de chercher vainement son compagnon dans un jour de détresse. Dunque, un matin, après déjeuner, les pieds sur les chenets, fumant chacun notre pipe, après avoir bien rougi, pris bien des précautions, le voyant me regarder avec inquiétude, je lui tendis une inscription de rente au porteur de 2 400 francs. Fin de la 41e section.
Most tax pros leave a message.
It's Jane. I'm moving on to a TurboTax expert who beat your price. Adam Devine, tell him how I feel.
Hey, tax pro, she's been thinking twice. Best believe TurboTax will beat your price. This is a tax break.
Switch to a TurboTax live expert and we'll beat what you paid your pro last tax season. Make the switch at TurboTax.com/beatyourprice. TurboTax full service only. Sign up by 12/20/2024 and file by 4/1/2025. Full details at TurboTax.com/beatyourprice.